Alors, je m'appelle Raphaël Chevrier, je travaille chez Ariane Espace depuis 2016, d'abord en tant qu'assistant exécutif auprès du président exécutif d'Ariane Espace, Stéphane Israël, et actuellement au sein de la division commerciale, et plus spécifiquement au sein de la section business développement, en charge notamment de plusieurs études de faisabilité et des sujets d'innovation pour vraiment savoir quelle nouvelle mission on va pouvoir adresser avec notre nouvelle gamme de lanceurs qui arriveront cette année, Ariane 6 et Vega C.
Quel a été votre parcours d'étudiant ?
Alors, j'ai un parcours relativement académique. J'ai suivi un parcours universitaire, donc j'ai défendu une thèse en physique nucléaire au sein du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Donc, cette thèse, elle portait sur l'étude de la structure des noyaux exotiques. Ce sont des noyaux qui sont extrêmement instables, donc qui n'existent pas sur Terre, mais qui existent dans des environnements énergétiques très extrêmes, c'est-à-dire les explosions d'étoiles ou les supernovas, et à l'intérieur même des étoiles. Et ces noyaux, on essaie de les reproduire sur Terre grâce à des accélérateurs de particules en France, aux États-Unis et au Japon. Et avec ces accélérateurs de particules, on reproduisait ces noyaux et on essayait de les étudier pendant une infime fraction de seconde avant que ces noyaux se transforment spontanément en d'autres noyaux beaucoup plus stables. Et ces résultats nous ont permis d'avoir des informations assez fondamentales sur l'une des quatre forces de l'univers, à savoir l'interaction forte qui lie les nucléons entre eux au sein du noyau.
Quel a été votre parcours professionnel ?
Alors, après avoir défendu ma thèse, mon parcours n'est pas forcément très linéaire pour une carrière spatiale. J'ai d'abord intégré un cabinet de conseil qui œuvrait auprès des startups et des PME qui étaient lancées dans des travaux de R&D, de recherche et développement et d'innovation. Et après, j'ai intégré donc Ariane Espace en rencontrant le PDG Stéphane Israël qui a pris, lui, vraiment le risque de prendre un profil assez atypique comme le mien. Et ça, je trouve que c'est quand même très, très important pour une entreprise. Et en parallèle de tout ce parcours, moi, j'ai fait beaucoup de journalisme scientifique, et notamment au sein du magazine de l'astronomie Ciel et Espace. Et puis là aussi, je voudrais rendre hommage à son rédacteur en chef qui, lui aussi, il m'a embauché pour un stage quand j'étais tout jeune. Je sortais à peine du bac. J'avais aucune expérience en journalisme. Et lui aussi a pris le risque de tenter l'aventure. Et puis finalement, ce stage, il a continué dans une collaboration fructueuse pendant de longues années.
Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre carrière qui vous a influencé pour vous orienter, bien entendu, dans une carrière liée au spatial ?
Je pense à beaucoup de monde et à beaucoup de rencontres. Mais les premières personnes à qui je pense sans doute, ce sont mes professeurs que j'ai pu avoir au collège, au lycée et à l'université. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des professeurs à la fois en littérature, mes deux passions, et en sciences et en physique. D'ailleurs, je pense à certains noms, et ce sont des femmes, qui m'ont vraiment ouvert à des nouveaux horizons que j'ai plus quittés depuis, qui sont effectivement la littérature et la physique. Et donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel, ce rôle des professeurs, pour pouvoir déclencher des vocations, en tout cas ça l'a fait auprès de moi. Et puis je l'ai cité, Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, qui lui a pris le risque de prendre un petit jeune comme moi à la sortie du bac, qui n'avait aucune expérience en journalisme, pour un stage. Et évidemment, Stéphane Israël, le PDG, le président exécutif d'Ariane Espace, qui là aussi a pris le risque de prendre et de tenter l'aventure avec moi, alors que je n'avais pas fait de grande école d'aéronautique et de spatiale. Et je pense que les entreprises ont tout à gagner à s'appuyer sur des profils qui ne sont pas forcément des profils qui ont suivi une trajectoire.
Alors, pouvez-vous nous énoncer les grandes lignes de l'innovation d'Ariane Espace, et pas que dans le domaine de la technique ?
Je vais quand même commencer par le domaine de la technique, puisque Ariane Espace et l'Europe ont fait le choix de se lancer dans un cycle d'innovation continue avec sa nouvelle gamme de lanceurs. Et par exemple, Ariane 6 qui volera en 2025 ou en 2030 ne va pas forcément ressembler à l'Ariane 6 qui volera au second semestre de cette année. Ariane 6 en 2025-2030, elle va bénéficier d'une augmentation continue de sa performance, donc de ses capacités à envoyer de la masse dans l'espace, notamment grâce au développement d'un étage supérieur beaucoup plus léger à base de fibres de carbone. C'est aussi un lanceur qui pourrait bénéficier d'un nouveau moteur, 10 fois moins cher à produire, basé sur l'oxygène liquide et le méthane, et surtout basé sur les nouvelles techniques d'impression 3D, qui s'appelle le moteur Prometheus. Et puis, c'est un lanceur qui pourrait bénéficier, si jamais le modèle des lancements de l'Europe et surtout sa cadence augmente significativement, donc si ça fait sens, qui pourrait bénéficier du réutilisable. Je sais que l'Europe, aujourd'hui, se prépare à utiliser cette technologie à travers notamment les projets Thémis et Callisto. Et puis, d'un point de vue un peu plus Ariane Espace, j'ai envie de dire qu'on innove au jour le jour. On a vraiment une section dédiée à l'innovation concernant Ariane Espace. Et on réfléchit tous les jours à la façon dont on peut augmenter et délivrer des services toujours plus alignés avec les demandes des clients. Et ce sont des services qui sont de plus en plus complexes, avec des demandes qui sont de plus en plus affinées. Pareil, enfin, je peux vous prendre plusieurs exemples. On a l'augmentation du marché des petits satellites, avec la miniaturisation des technologies. Et Ariane Espace, dans ce cadre-là, a répondu à cette demande en développant des structures d'emport multiples où on peut embarquer plusieurs satellites à la fois, de nombreux satellites qui seront déployés ensuite sur divers endroits de l'espace en un seul vol. Je peux aussi penser à cette nouvelle appétence pour la Lune. Tout le monde en parle et elle est là. Il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui s'intéressent à la Lune, notamment motivés par les nouvelles ambitions américaines d'y retourner et de redéposer des hommes et des femmes sur notre satellite naturel. Et là encore, Ariane Espace réfléchit à développer pour la première fois de son histoire des missions qui pourraient emporter plusieurs satellites à la fois, plusieurs engins spatiaux en direction de notre satellite naturel, avec une sorte de en prenant une sorte d'autoroute vers la Lune pour pouvoir donner toute la flexibilité à ces nouveaux acteurs. Et puis, j'ajouterai aussi une dernière chose, c'est que toutes ces nouvelles activités, et c'est aussi de l'innovation en quelque sorte, Ariane Espace essaye de produire, d'accompagner ces nouvelles activités spatiales de façon durable. Et ça, c'est très important dans un contexte où de nouveaux acteurs, parfois, sont tentés d'aller déployer beaucoup de choses en orbite dans un état d'esprit un peu far west, ce dont nous n'appelons pas de nos voeux, et surtout en ne se souciant guère de laisser des débris derrière eux. Et ça, c'est vraiment, sur Terre comme dans l'espace, un vrai axe d'innovation qui est d'essayer de définir un cadre d'activité durable pour pouvoir utiliser tout simplement l'espace pendant de nombreuses années, puisque l'espace, il est avant tout utilisé pour le plus grand bénéfice des terriens.
Récemment, vous avez écrit un livre, Ça alors, histoire de ces découvertes que l'on n'attendait pas. À qui s'adresse-t-il en premier lieu et quelle méthode avez-vous utilisée pour l'écriture de ce livre?
Je ne vais pas utiliser de méthode particulière pour écrire ce livre, mis à part mobiliser mon intérêt, ma curiosité et puis surtout ma passion pour l'écriture, donc qui m'a permis de faire des recherches, de lire et de relire de la documentation et puis surtout de vérifier la fiabilité et la pertinence de ces sources. Ensuite, ce livre, il s'adresse à n'importe qui est curieux des sciences, mais pas que. En racontant des histoires de grandes découvertes scientifiques qui ont été faites par hasard ou par accident ou par un concours de circonstances, finalement, j'ai surtout essayé de comprendre l'état d'esprit des protagonistes de ces histoires pour savoir qu'est-ce qui avait fait qu'ils avaient su transformer un hasard en chance, un accident en quelque chose qui leur était bénéfique, rebondir sur des imprévus et vraiment faire avancer la science dans des conditions qui ne sont vraiment pas évidentes, c'est-à-dire dans des conditions d'inconnu. Et en fait, je me suis rendu compte que dans toutes ces histoires, il y a un point commun. Ce sont des individus qui n'ont pas des parcours très linéaires, ce sont des individus très atypiques, qui beaucoup étaient certains étaient analphabètes, d'autres étaient autodidactes, d'autres n'ont pas hésité à combattre les idées un peu ambiantes qu'ils entendaient autour d'eux et surtout les obstacles qu'ils avaient de la part de leurs propres collègues. Et ça, je pense que c'est, au-delà du livre, c'est un message assez important à délivrer au sein des entreprises et même au sein du monde académique. Laisser la place à l'imprévu et surtout entendre des individus, des salariés qui ont des idées, qui ont des idées qui peuvent sortir du cadre. Ça ne fonctionnera pas toujours, mais ça fonctionnera parfois. Et je pense que les entreprises ont toutes à y gagner de vraiment s'appuyer sur des profils tels que cela.
Que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences en général et le spatial en particulier ?
Alors, je leur conseillerais d'abord de bien réfléchir à ce qui les motive et ce qu'ils aiment. Qu'est-ce qui fait qu'ils se réveillent le matin pour aller travailler ou pour aller étudier ? Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que tout en ayant des passions et en sachant ce qu'ils veulent faire, vraiment garder son esprit alerte et ne pas hésiter saisir des opportunités qui peuvent parfois les emmener sur des chemins différents, là encore. Je sais qu'en France, on est marqué par cette volonté de suivre un parcours professionnel qui colle parfaitement à son parcours académique pour ne pas dévier du chemin. Mais là encore, je pense qu'il est important, et je pense que les entreprises le comprennent de plus en plus, de s'appuyer sur, évidemment, des profils qui ont acquis de grandes compétences, mais aussi des profils plus atypiques.
Alors, pour terminer, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société, au-delà de la dynamique propre des entreprises françaises et européennes ?
De par mon expérience, là, vous prêchez un convaincu. Évidemment, je trouve que le travail que vous faites de vulgariser la science auprès du grand public, il est absolument essentiel pour des raisons qui sont évidentes. C'est que la science et la technique, elle appartient à tout le monde. N'importe quelle découverte scientifique ou les applications spatiales que l'on déploie, ils appartiennent à la fin à tout le monde. C'est important que tout le monde se l'approprie et d'avoir le soutien du public. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé chez Ariel Espace, c'est d'être entouré de gens qui sont aussi passionnés, des gens qui sont bienveillants, qui sont dévoués à leur travail. Et je pense que c'est important de partager ça. L'Europe spatiale, là encore, elle a toutes les raisons d'attirer la jeunesse la plus brillante et la plus passionnée qui soit. Tout simplement, on a toutes les raisons d'aborder, en tout cas dans le domaine spatial, l'avenir avec confiance.
Très bien, merci.